Radio J, la chronique pour la paix. Et ce matin, eh bien, pour l'instant, je suis toute seule pour interviewer notre invité, puisque Paul-Uzi Meyerson est bloqué dans le métro. La ligne 9 ne fonctionne pas. Donc, tant qu'à faire, je vous donne l'info. Il va peut-être, avec un peu de chance, arriver avant la fin de l'émission. Ce matin, nous avons une invitée. Il s'agit de Daniela Touati, quatrième femme rabbin en France à remplir cette fonction qu'elle exerce à la synagogue libérale Keren Or de Lyon. Vous êtes avec nous, Daniela Touati, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors, c'est avec plaisir que nous vous recevons, particulièrement en ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Une femme rabbin, c'est encore un événement en France. Peut-être que ça le sera moins dans les années qui viennent, souhaitons-le. Le thème aujourd'hui que nous souhaitons évoquer, les conversions au judaïsme effectuées en Israël par les mouvements réformés et ma sortie, qui doivent désormais être considérées comme valables pour acquérir la citoyenneté du pays. Alors, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à cela. J'imagine que c'est plutôt une réaction de contentement.
Oui, bien sûr, je suis très contente de cette décision de la Cour suprême. Et effectivement, ça fait 15 ans en fait qu'il y avait donc des dossiers en attente et donc un cas qui était soumis à la Cour suprême pour donc valider ces conversions par les mouvements non orthodoxes en Israël. Et ce n'est que justice en fait, puisque du coup, il y a une égalité entre le traitement de ceux qui sont convertis par les mouvements non orthodoxes en diaspora et ceux qui sont convertis par les mouvements non orthodoxes en Israël.
Alors, justement, est-ce qu'une conversion en diaspora sera reconnue également ou l'est déjà ?
En fait, oui, une conversion en diaspora est déjà reconnue depuis 2005, justement, oui. Depuis le moment où ce cas a été porté à la Cour suprême. Et ça ne change rien pour ceux qui viennent de l'étranger, que nous, donc dans nos communautés, nous avons. Pour moi, c'est une chance de pouvoir en fait convertir ces personnes. C'est plutôt un honneur d'accueillir de nouveaux membres parmi les Juifs, parmi notre peuple. Et c'est ce que je fais moi quotidiennement.
Bien sûr. Alors, justement, vous faites cela quotidiennement. Qu'est-ce que concrètement, ça va peut-être changer dans vos relations avec Israël ?
Alors, pour nous, en fait, ça fait déjà un moment qu'il y a... on est, on va dire, supervisé par nos amis israéliens qui sont les rabbins du mouvement libéral,
oui.
Qui nous donnent les nouvelles consignes. Et effectivement, on sent qu'il y a une sorte d'anxiété hein, qui monte par rapport à certaines personnes qu'on peut convertir en France ou dans d'autres pays et qui veulent faire leur alia. Et donc, on se doit d'être plus strict sur un certain nombre de choses, notamment la durée, mais on l'était déjà en fait. Hein. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil, je dirais, puisque on était très strict sur la durée de la conversion, sur le contenu des conversions. Il y a des programmes très bien élaborés. On se concerte entre nous. Il y a une association de rabbins libéraux en France et on est toutes les semaines en lien par rapport à ça. Et bien sûr, il y a la Brit Mila qui est obligatoire et aussi la Tevila, donc l'immersion. Donc on respecte strictement les mêmes critères
que les
rabbins consistoriaux et autres.
Est-ce qu'à Lyon, vous faites partie de GEM ?
Non, alors GEM, c'est une entité qui est donc sur Paris.
Oui, c'est ça.
Copernic et MJLF. Il y a effectivement maintenant, je pense, Strasbourg qui a dû aussi se rallier à GEM. Mmh. Nous, on est indépendants, mais on fait partie de ce qu'on appelle la Fédération du judaïsme libéral,
oui.
Qui comprend la communauté de Pauline Beb, donc la CJL, celle de Tom Cohen, celle de Genève, du rabbin Garay, Bruxelles, etc.
Bien sûr. Alors, Uzi Meyerson vient de nous rejoindre. Il a été libéré de la ligne 9. Hein, j'ai tout raconté.
Tu as bien fait. Maudit métro.
Voilà.
Maudit métro.
Maudit RATP quand elle s'y met.
Voilà. Alors, bonjour Daniel Atouati. Bonjour chers auditeurs.
Alors, on a commencé sans toi. On a déjà posé beaucoup de questions.
C'est très bien.
Donc, voilà.
Oui, je voulais vous demander. J'ai vu que les rabbins israéliens ultra-orthodoxes et orthodoxes ont très mal réagi à cette décision de la Cour suprême et ils ont même réagi très violemment pour ne pas dire pire. Comment vous expliquez cette réaction extrêmement violente? Est-ce que c'est une question de théologie, une affaire de pouvoir, de compétition? Comment vous comprenez ça?
Voire de politique,
bien sûr.
Oui. Moi, il me semble, vu de l'extérieur, mais en même temps, je peux m'exprimer parce que j'ai la double nationalité, donc je suis aussi israélienne, donc je pense avoir le droit de le dire et je suis de près l'actualité en Israël. Je pense que c'est une question de pouvoir, clairement, et c'est une angoisse qui est irraisonnée, on va dire, par rapport à ce qui pourrait se passer. C'est évidemment une rupture dans le monopole du grand rabbinat israélien. Évidemment, ça peut contrarier un certain nombre de personnes qui vivent quand même sur ce monopole depuis la création de l'État, en fait. Hein.
Oui.
Et donc, c'est une brèche, puisque du coup, si on reconnaît des actes qui viennent des rabbins non orthodoxes, c'est la porte ouverte pour qu'il y ait d'autres, par la suite, d'autres actes qui soient reconnus, comme on l'espère, c'est-à-dire, par exemple, les mariages. Et il y a la problématique aussi des cimetières en Israël, qui est très douloureuse.
Par exemple, quelle problématique ?
Par exemple, tout simplement, si vous avez des jeunes juifs qui se considèrent juifs, qui viennent des États-Unis, qui ont été convertis ou qui sont peut-être patrilinéaires, etc., et qui s'engagent dans l'armée israélienne, puisqu'ils ont la nationalité israélienne de fait, ils peuvent... Malheureusement, ça arrive qu'ils meurent au combat et ils ne peuvent être enterrés dans un cimetière du rabbinat orthodoxe.
Ah oui, c'est terrible.
Il y a eu pour les juifs russes aussi, il y a eu ça.
Bien sûr. Mais je vous donne le cas le plus terrible qui soit. Hein. Vous imaginez un soldat qui meurt au combat et qui n'a pas le droit d'être enterré là où sont les autres personnes.
Voilà. Madame la rabbine, toujours une question. Vous avez dit certainement que le judaïsme américain était majoritairement libéral et massorti. Comment est-ce que ce judaïsme américain, qui est quand même très fort ici et là-bas, comment est-ce qu'il réagit à cet entre guillemets ostracisme vis-à-vis des libéraux, des juifs massortis, etc.
Alors malheureusement, effectivement, il y a là aussi une sorte de changement de paradigme par rapport aux générations qui sont la mienne et celle qui précède, la génération des plus jeunes, de mes enfants, on va dire, ont tendance malheureusement à se détourner d'Israël, et ça se manifeste, même s'ils continuent bien sûr à visiter Israël, etc., ils voient, on va dire, les défauts dans la démocratie israélienne, et ça va à l'encontre des valeurs juives qui sont prônées dans n'importe quelle synagogue. Et ils ne comprennent pas que ces valeurs ne soient pas respectées dans le pays, justement, qui est censé montrer l'exemple dans ce domaine en termes de valeurs, de comment on traite l'étranger, comment on traite les minorités. Et bien sûr, en sachant qu'on est un pays, enfin, Israël est en guerre, ou en tout cas est toujours sous la menace, mais néanmoins, il se doit, ce pays, de respecter un certain nombre de valeurs, et cela me semble très important de le rappeler.
Et alors, comment vous expliquez que les gouvernements d'Israël, le gouvernement actuel, ceux d'avant aussi, ne sont pas plus sensibles aux arguments des juifs américains concernant la pluralité religieuse, la pluralité la pluralité des traditions du judaïsme ? Pourquoi l'orthodoxie a une telle prémanence sur tout ?
Alors, ça, je pense que ça vient effectivement de ce grand rabbinat israélien qui met une grande pression. Il y a des pressions politiques parce qu'il y a des alliances, comme vous le savez, entre les partis ultra-orthodoxes et le gouvernement actuel. Donc, il y a cette tension entre l'intérieur et l'extérieur où, effectivement, Le deuxième lieu du judaïsme, c'est les États-Unis. C'est à peu près la moitié des juifs au monde vivent aux États-Unis et plus de la moitié sont donc réformés ou conservatives, c'est-à-dire assortis. Et malgré tout, on ne les écoute pas. Et c'est vrai que régulièrement, on entend des menaces, notamment de dire bon, on va arrêter de donner de l'argent à Israël puisqu'on n'est pas reconnu.
Et ben oui.
Bon, finalement, cette idée est abandonnée et on cherche toujours le compromis parce que de notre côté, on est...
Vous êtes tenu par les
toujours,
sentiments.
Bien sûr, et puis on est toujours dans cette recherche d'ouverture, dans cette recherche de paix, parce qu'on en a vraiment assez de de ce fossé en fait entre nous et on n'a vraiment pas besoin d'ennemis à l'intérieur alors qu'on en
bien
a
sûr.
Tant, on va dire, à l'extérieur.
Alors, Daniela Touati, il nous reste très peu de temps. Une dernière question. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars, comme on le disait en début d'émission. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que femme rabbin ?
Ah, d'être le 8 mars,
oui.
C'est une journée de fête, donc c'est la journée des droits des femmes.
Des
donc,
droits des femmes, exactement.
Effectivement, pour que l'égalité puisse un jour, avant que le Messie n'arrive, voir le jour, effectivement, dans tous les domaines, et on en est loin, comme vous le savez. Et c'est vrai que mon engagement dans le rabbinat est clairement venu de cette volonté d'égalité. Mon engagement dans le judaïsme libéral tout court est venu de ça, en fait. Moi, je suis née dans une famille totalement athée, qui ne pratiquait pas grand-chose, ou petite kippour et Pessah, et voilà. Et donc, j'ai fait toutes ces démarches parce qu'il me semblait important d'avoir aussi la jambe de la religion, on va dire, de ne pas être uniquement sur l'aspect culturel juif et en tant que femme, montrer qu'on peut être une femme engagée dans la religion et apporter sa pierre à cet édifice du peuple juif qui me tient beaucoup à cœur.
Alors, Daniela Touati, si vos pas vous mènent de Lyon à Paris, vous serez la bienvenue, bien sûr, dans le studio de Radio J. Uzi Meyerson.
Merci beaucoup, madame la rabbine, d'avoir participé à l'émission. Excusez mon retard, c'est la faute de la RATP. Voilà. Bonne semaine à tous et à toutes. C'était Paul Uzi Meyerson et Lise Gutmann pour Chronique pour la paix.
Voilà. Merci, au revoir. Bonne journée à Lyon.